Les Plumes sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Vilquier pour son roman « Et nos routes toujours se croisent » publié aux éditions Rémanence. Raymond Hiss, trésorier de la DIL, l'association de défense et d'illustration de la littérature en Lorraine, qui nous parlera du prix Victor Hugo décerné tous les ans. Avec nous également John Bulit, qui nous fera la lecture de sa nouvelle « Au pays des Schtroumpfs ». Bonjour à vous trois et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Alors
bonjour.
Raymond, tu peux nous parler du prix Victor Hugo décerné tous les ans par l'association de la DIL ?
Oui, donc le prix Victor Hugo a été décerné le 8 juin à l'occasion du salon de Villers et Nancy, le 17e salon des auteurs lorrains. Et le jury a reçu 26 ouvrages, dont 3 ont été présélectionnés et soumis au président du jury, Gérard Tenenbaum, qui a dégagé, qui a choisi le lauréat ou la lauréate de ce prix. Alors, en plus de cela, donc, le jury a décerné une mention spéciale à un autre ouvrage qui n'a pas pu être franchement sélectionné pour problème de date éditoriale. Mais qui, on avait des scrupules un petit peu à le laisser de côté. Donc je vais commencer par parler de celui-ci, avant de parler du lauréat ou de la lauréate. Donc la mention spéciale a été donnée à Thierry Lefebvre pour son roman « La conjecture des hirondelles ». Alors sous ce titre un peu curieux, se cache non des hirondelles, mais un problème mathématique. C'est-à-dire que nous sommes plongés en 1962, en Union soviétique, à Moscou, dans un institut de recherche, dans un institut de mathématiques, où officient deux jeunes mathématiciens, Igor et Alexei. Et ils tentent de résoudre une conjecture, un problème mathématique, en essayant de trouver un contre-exemple. J'insiste pas sur les détails. Quand on lit l'ouvrage, ça pose aucun problème. Ça se pose en termes d'arithmétique. Mais bon, donc, ils sont en train d'essayer de résoudre ce problème. Et c'est à ce moment-là que les mathématiciens sont invités l'année suivante à un congrès international de mathématiques à Stockholm. Et évidemment, on leur met la pression pour que l'Union soviétique fasse bonne figure lors de ce congrès international. Entre parenthèses, à l'époque, l'école mathématique soviétique était une des premières du monde. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue depuis, si les mathématiciens ont dû faire livreur de pizza ou chauffeur de taxi pour survivre. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc, on assiste à ce challenge que essayent de relever les mathématiciens pour arriver à résoudre ce problème avant le congrès. En plus, le livre est intéressant parce que ces mathématiciens vont découvrir pour la première fois l'informatique. Parce qu'on mouline, des tonnes de données et on ne peut passer que par l'ordinateur. L'ordinateur, ils ne connaissent pas. Ils s'initient à la programmation. Alors les ordinateurs de l'époque, c'est des monstres qui font plusieurs mètres cubes, qui fument, qui chauffent, les circuits qui grillent. Et petit à petit, l'ordinateur devient un personnage à part entière dans leur histoire. Et tout à coup, cette intrigue proprement scientifique est doublée par une autre, parce que l'un des jeunes mathématiciens, Igor, trouve dans son casier une lettre de son père, qui est arrivée, on ne sait pas trop comment, elle n'est pas arrivée par la poste, c'est quelqu'un de l'Institut de mathématiques qui l'a déposée. Et son père, un an auparavant, a fui l'Union soviétique pour s'installer en France. Et il lui envoie une lettre en lui disant « Tiens-toi prêt ». Sous-entendu, tiens-toi prêt à partir. Et à partir de là, donc, se développe une autre intrigue qui est la façon dont Igor et son compagnon vont essayer de fuir l'Union soviétique. Donc cette intrigue scientifique se double une intrigue politico-policière avec les méchants qui sont bien sûr les gens du KGB. Bon, je ne raconte pas la suite de l'histoire, mais ça se transforme en une espèce de thriller politico-policier, qui se déroule parallèlement à l'intrigue scientifique. Mais je veux dire que la lecture en est facile, parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances en mathématiques. Ça se lit très facilement. Voilà donc pour cette mention spéciale. Et donc Gérald Tenenbaum, parmi les 3 ouvrages qui avaient été présélectionnés par le jury, a choisi celui de Mireille Poulain-Géorgie, « Serva Amorosa », aux éditions Jalon. Alors, Serva Amorosa, c'est tout autre chose. Ça pourrait être une autobiographie, ça pourrait être un récit. C'est tout à la fois. Ça se passe dans une famille, c'est un récit qui est quand même autobiographique, où l'autrice raconte, parle de sa famille, dans une cité ouvrière de la sidérurgie Lorraine, dans la région sidérurgique Lorraine, une famille italienne. Donc c'est à la fois un témoignage en même temps sur ces gens issus de l'immigration. Mais elle ne procède pas de manière chronologique, elle procède par petites touches. C'est une anecdote, un souvenir qui en appelle un autre, etc. Et le récit se compose progressivement avec des passages qui sont franchement poétiques. Et d'ailleurs, ce qui pourrait être le sous-titre de ce livre, elle parle d'un trèfle à quatre filles. Le trèfle à quatre filles, ce sont elle et ses trois sœurs. Ça se déroule dans un univers essentiellement féminin, il y a la mère aussi. Et parmi ses souvenirs, la cuisine, les souvenirs de cuisine occupent une très grande place. Donc, le mieux que j'ai à faire, c'est de vous lire un extrait de cet ouvrage, et ça vous permet de voir comment il est composé. J'ai bâti des pyramides de feuilles mortes. Les enfants s'y sont jetés en riant. J'ai ouvert les portes de mes maisons, attisé les feux, mis les mains dans la farine, modelé l'argile, préparé Noël et Pâques, offert des perles de rosée pour tous ceux qui le voulaient. J'ai accompagné la douleur des souffrants, toujours préféré le pain noir au pain blanc. Je n'ai jamais serré les poings, j'ai recherché des arcs-en-ciel, dessiné des moutons, brodé des soleils. Pour tous ceux que j'ai aimés, j'ai tracé des cercles de feu, multiplié des bulles de savon, magnifié la clé de voûte, pour toute ma famille. J'ai traversé des flocons de neige, nourri des onguents, nagé des brasse-papillons dans de joyeuses tarentelles. J'ai réchauffé les ombres, ranimer les reflets, revivifier le crépuscule. Tous les jours que Dieu a fait, j'ai dressé les tables de fête, peint le bleu du ciel, serti les ombres chinoises, récolté des figues et citrons, engrangé sirops et confitures, pour qu'explose le bonheur. Je n'ai pas cherché à comprendre le monde, je l'ai rêvé, je vous l'ai donné, parce que je vous aimais, je suis comblé. Et en effet, à travers ce récit se dessine une autobiographie, l'histoire d'une famille italienne, mais sans que ce soit véritablement un véritable témoignage. Et l'auteur arrive à développer un récit qui est à la fois féministe et en même temps, disons, patrimonial, en évitant toutes les lourdeurs de ce genre de récit en général. On le sent, la partie féministe, la partie italienne, à travers les souvenirs, à travers les anecdotes qu'elle égrène au fur et à mesure de la façon dont se révèlent ses souvenirs. Voilà donc pour le prix. Alors, Serva Amorosa, oui, j'ai oublié de le dire, c'est un titre en italien, il faut quand même traduire. Ce n'est pas La servante amoureuse, c'est La servante aimante. Et le titre lui est venu, à l'autrice, à Mireille Giorgi. Elle assistait à une représentation à Paris d'une pièce de Goldoni qui s'appelait Serva Amorosa. Et elle a eu à ce moment-là l'intuition que sa mère était en train de mourir. Et après coup, elle s'est rendue compte effectivement que sa mère, elle était loin, elle était en Lorraine, est morte à ce moment-là. Et elle a repris ce titre, Serva Amorosa, qui, les servantes aimantes, c'est sa mère, ce sont ses sœurs, qui constituent cet univers féminin de la famille. Et ensuite, donc, le jury avait présélectionné également un autre ouvrage, celui de Denis Bolo, qui s'intitule « Un gulden au creux de la main ». Là, on est dans un autre domaine, on est dans un roman historique qui se déroule au début du XVIe siècle, qui commence exactement en 1517. Un personnage qui s'appelle Hans, un moine défroqué, arrive à Saint-Nicolas-de-Port. C'est un personnage qui a un passé assez lourd, qu'il doit cacher à ses interlocuteurs. Et on arrive au moment où on est en train de construire la basilique de Saint-Nicolas. Et il se fait embaucher par Valentin Bouche, qui est le grand verrier qui a réalisé les vitraux de Saint-Nicolas, mais qui a réalisé aussi les vitraux de la cathédrale de Metz, les vitraux du transept de la cathédrale de Metz. Et il l'embauche comme comptable, mais finalement il révèle des appétences pour le vitrail et il finit par travailler dans le vitrail. En fait, à travers l'histoire du personnage, le héros de ce roman, c'est surtout la basilique dont on assiste à la construction. Donc on passe par tous les corps de métier, expliquer comment ça fonctionne, les maçons, les tailleurs de pierre, les vitriers, on apprend plein de choses, c'est très documenté. Quant au personnage, l'ouvrage est présenté comme une confession qu'aurait écrite le personnage de Hans. Alors, il avait besoin de se confesser, effectivement. Un vol suivi d'un assassinat, il y avait de quoi se confier à un prêtre. En réalité, le titre « Un gulden au creux de la main », le gulden, c'est une pièce de monnaie qu'il a gardée au fond de sa poche comme fétiche. Mais il en a ramené beaucoup d'autres d'Allemagne, où il suivait un prédicateur qui vendait des indulgences. Vous savez, les indulgences, à l'époque, les gens mettaient des pièces d'or dans une cassette et dès que la pièce d'or avait atteint le fond de la cassette,
les péchés s'étaient envolés.
Les gens quittaient automatiquement le purgatoire. C'était bien fait, il n'y avait pas tortillé. Bon, lui a pensé que cet argent lui serait peut-être plus profitable, donc il est parti avec la caisse, quoi. Il s'est tiré avec la caisse. Et il l'a caché avant de mourir. Alors, il le révèle dans son livre. Il l'a caché sous une dalle de l'église Saint-Gorgon de Varangéville. Personne ne l'a trouvé, donc je pense qu'elle doit toujours y être à présent. Voilà donc pour le deuxième ouvrage sélectionné. Le premier ouvrage sélectionné. Et nous avions également sélectionné un troisième ouvrage, l'ouvrage de Marie Vilquier, « Et nos routes toujours se croisent » aux éditions Rémanence. Mais comme elle est présente aujourd'hui, bon, je pense que je vais lui laisser la parole et elle en saura en parler mieux que moi.
Merci Raymond. Nous revenons après Bob Marley.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors nous sommes toujours avec Marie Vilquier, venue nous présenter son roman « Et nos routes toujours se croisent », publié aux éditions Rémanence, avec Raymond Is, trésorier de la DIL, et John Bulit pour sa lecture de sa nouvelle
« Au pays des Schtroumpfs ».
Voilà. Alors Marie, et nos routes toujours se croisent, pardon, est votre premier roman. Aviez-vous déjà écrit d'autres textes avant de vous atteler à l'écriture de ce roman ?
Alors oui, j'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite. Mon premier roman, je l'ai terminé à 12 ans. Mais je l'ai retrouvé récemment dans les cartons chez mes parents. Je l'ai relu, je me suis dit qu'il allait y retourner. Bon, c'était écrit avec la fougue et l'immaturité d'une enfant de 12 ans. Mais j'avais réussi à aller au bout de ce manuscrit. Et après, je travaillais plus sur des petits textes ou des poèmes, des nouvelles. Et quand je suis rentrée en études supérieures, j'ai complètement mis de côté ma plume parce que j'avais plus du tout le temps d'écrire. Mmh. Et c'est à l'occasion d'un congé maternité que j'ai pu écrire ce premier roman, je pense bien plus abouti que celui que j'avais pu écrire à 12 ans.
Je confirme. Alors, comment donc ? Le titre de votre roman est très très poétique. Alors pourquoi avoir choisi ce vers de Paul Éluard ? Qu'est-ce qu'il se dit ?
En fait, rétrospectivement, je me disais que tous les titres de romans assez poétiques m'appelaient sur les tables des libraires.
Oui.
Et quand je cherchais un titre à mon roman, j'ai regardé un petit peu à lire plein de poèmes, plein de recueils. Et je suis tombée sur ce poème de Paul Éluard qui s'intitule « La mort, l'amour, la vie ». Et ce titre, avec ces trois mots, je me suis dit que ça a résonné énormément avec ce que je ressentais et que l'essence même de mon roman se trouvait dans ces trois mots-là. Donc j'ai ouvert et je l'ai lu. Et il y a un vers, du coup, « Et les routes toujours se croisent » qui m'a vraiment interpellée. Parce que je me suis dit que dans mon roman, finalement, c'était une histoire de destin qui se croise, qui s'entrechoquent, qui apprennent à s'apprivoiser, à se tutoyer. Et donc j'ai modifié un tout petit peu. Je l'ai modifié pour que je puisse l'utiliser, on va dire.
Mm-hmm.
Et à la base, mon éditrice Mathilde Palfroy n'était pas forcément chaude pour prendre ce titre-là. Et puis finalement, quand je lui ai donné cette explication, elle a fait « Ok, je vois bien où tu veux en venir ». Et du coup, on a sélectionné ce titre-là.
Mm-hmm. Alors, vous voulez bien nous parler d'Étienne, un brillant interne en médecine ?
Oui.
Non, en pédiatrie, pardon. On va
préciser
pédiatrie.
Ouais.
Oui.
Étienne, c'est un interne en pédiatrie qui rêve de faire de la réanimation pédiatrique. Jusque-là, il a eu un cursus assez brillant. Et finalement, suite à un chantage avec un de ses co-internes, il va se retrouver contraint de lâcher sa place dans le stage de réanimation pédiatrique au profit d'un stage en cancérologie pédiatrique, qui est un stage qui fait énormément peur, à la fois pour les lecteurs, pour les médecins et les étudiants. Et en fait, moi, j'avais à cœur de montrer combien ces services qui font si peur de l'extérieur peuvent aussi être beaux et lumineux malgré tout. Et finalement, on va suivre le parcours de cet interne sur tout son semestre de stage où il va arriver dans ce service avec une mauvaise attitude initiale. Il va manquer de bienveillance parce qu'en fait, il se traîne des casseroles familiales qu'il n'a pas pris le temps de digérer. Et en fait, il va être amené à faire une erreur médicale qui va le bouleverser, le faire se remettre complètement en question. Et en fait, au fur et à mesure de son stage, au contact des enfants et de ses collègues soignants, il va apprendre à la fois sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel.
Mmh. Alors, ce service qu'il intègre n'est quand même pas facile, hein, puisque faire face au cancer des gamins, hein, et à l'incompréhension, la douleur, le chagrin, la peur des parents, ça doit être un peu compliqué quand même.
Oui, ça l'est, effectivement.
Ah. Ça l'est. Mais en plus, vous le décrivez très bien, parce que Vous étiez vous-même dans ce service, hein,
oui,
c'est ça ?
J'ai travaillé plusieurs années dans le service de cancérologie pédiatrique, donc à l'hôpital. Et j'ai assez rapidement, au cours de mon internat, choisi cette surspécialité-là. Mm-hmm. Finalement, on choisit une spécialité, et en pédiatrie, c'est un peu particulier. On nous demande souvent de nous surspécialiser, donc cancérologie pédiatrique, neuropédiatrie, cardiopédiatrie. Et quand j'étais externe, j'avais hésité avec l'hématologie adulte.
Mm-hmm.
Et finalement, je suis tombée amoureuse de la pédiatrie. J'ai choisi pédiatrie quand j'ai passé le concours de sixième année. Et c'est vrai que j'ai été assez bouleversée quand j'ai effectué mon premier stage d'internat. Donc, comme Gabrielle, finalement, dans mon roman, qui est la co-interne qui va effectuer son stage à côté d'Étienne, qui, lui, est en dernier semestre. Donc, il y a un gap, finalement, assez énorme d'expérience entre ces deux étudiants. Et je me suis inspirée finalement de mes ressentis à la fois d'interne de premier semestre et de médecin dans le service en replongeant un peu dans certaines notes. Parce que j'avais noté des bribes au cours de mon internat ou même quand j'étais chef de clinique ou praticien hospitalier, toutes ces petites situations drôles qui faisaient que le service était terriblement vivant. Des punchlines d'enfants qui pouvaient soit nous faire rire, soit complètement nous désarmer. J'avais pris des notes sans forcément savoir ce que j'en ferais. Et au moment où j'ai eu du temps libre pour écrire, j'ai ressorti ces carnets-là et je me suis dit, bon, allez, j'essaye d'en faire quelque chose.
Alors, donc les enfants, dont Younes, un petit garçon, et Clément, un jeune ado, sont hospitalisés donc dans ce service, sont des gamins formidables. Ils nous font pleurer et rire en même temps.
Ouais, ils le sont tous dans ces services. Enfin, moi, je pense que je n'en ai pas oublié un seul. Ouais, vraiment, j'ai des souvenirs vraiment très précis avec chacun d'eux. Je pense que chaque parcours de vie est différent, mais... Ils nous apprennent énormément. C'est peut-être un peu galvaudé ce que je dis là, parce que c'est vrai que voilà, on nous dit, on se dit souvent que des enfants qui traversent des drames pareils, c'est des leçons de vie, mais c'est vrai en fait, c'est terriblement vrai. On dit aussi qu'ils ont beaucoup de courage, mais ils n'ont pas le choix non plus. Et ils affrontent ça avec toute la fougue de leur jeunesse, toute la naïveté de leur enfance. Et moi, ça m'a aidée à traverser un certain nombre de tempêtes, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Et ça, je ne peux pas les oublier pour ça.
Mais c'est vrai que... Ils ont un courage et une détermination qui est assez impressionnante quand même. Ça, c'est efficace. Alors, le personnel de l'hôpital est très dévoué. Tous gardent leur humanité, malgré la fatigue, et gardent aussi une attention constante envers les petits malades.
C'est le travail d'équipe qui joue énormément. Dans ces services-là, si on ne travaille pas en équipe, s'il n'y a pas une cohésion qui permet de pouvoir débriefer certaines situations, on ne tient pas forcément... très longtemps. Et j'avais à cœur de montrer ça aussi parce que c'est l'expérience que j'ai pu avoir dans mon service. J'ai eu la chance de travailler avec des personnes absolument formidables, tant sur le plan médical, sur le plan paramédical, toutes les personnes, les associations qui gravitent dans ces services. Elles œuvrent toutes pour le bien-être des patients, mais aussi le bien-être des familles. Et ça, j'avais envie de le montrer également dans ce roman, sans que ça soit trop basé sur du médical. Je voulais vraiment montrer tout ce qui gravitait autour des enfants et que ça ne soit pas qu'un roman qui parle de maladie.
Oui, bien sûr, parce que bon, on pleure un peu dans votre roman, mais on rit beaucoup avec les enfants.
Je pense que je n'ai pas passé une seule journée sans rire quand je travaillais dans ce service. Ouais. Ils sont... ça reste des enfants en fait finalement. Ils ont beau être malades, ça reste des enfants. Donc ça joue, ça fait des courses de trottinettes dans les services. À la fin d'une journée, on peut aller faire une partie de PlayStation, lire un livre. C'est vrai que ça nous faisait tenir aussi en fait finalement ce relationnel-là qu'on pouvait développer avec nos patients en dehors d'une relation exclusivement de soins techniques.
Alors, vous faites dire à Richard Navet, le patron du service onco-hématologie pédiatrique, je vous cite, « Ce qui est certain, c'est que dans ce service, tout était exacerbé, la beauté comme la laideur. On a tout le cocktail pour péter un boulon et jeter l'éponge. Mais il y a aussi toutes les couleurs de la vie, ses forces et ses faiblesses. Moi, je m'y sens entier et je n'ai jamais voulu en changer. Je m'y retrouve et ce métier, pour moi, prend tout son sens. C'est un travail en équipe, avec les soignants, avec les parents, avec les enfants. Je trouve ça extrêmement gratifiant. » Bien qu'ingrat parfois, voilà, c'est ça. C'est ingrat et gratifiant à la fois. C'est ça. On sent que c'est vous qui parlez là, non ?
Oui, probablement.
c'est ça.
Oui, disons qu'en fait, quand j'ai construit mes personnages, je me suis inspirée de personnes avec qui j'ai vraiment travaillé. Je me suis inspirée de mon expérience de maman, de mon expérience en tant que soignante, en tant qu'étudiante. Et j'ai construit mes personnages comme une mosaïque, en fait, finalement. Donc, il n'y a pas un personnage qui est exactement... une personne que j'ai pu connaître. Et puis, il y a aussi beaucoup d'imagination qui est rentrée en ligne de compte. Donc, mais oui, je pense que j'avais certains messages aussi. Je pense que j'avais envie de un certain message que j'avais envie de délivrer sur l'importance du travail en équipe et le fait de ne pas perdre son humanité. Parce que c'est sûr qu'on nous demande de porter une blouse, d'avoir un certain recul. Mais il y a des vases communicants entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle.
Oui.
Et effectivement, il y a tout le cocktail pour péter un boulon. Et le fait de pouvoir débriefer, d'avoir des moments de joie, de respiration, ça c'était vraiment indispensable à l'époque quand je travaillais. Donc j'avais envie de mettre ça en évidence.
Mmh. Et maintenant, les difficultés comment donc perdurent et s'aggravent, je trouve, à l'hôpital du fait de la rotation du personnel. Hein, c'est ça, vous en parlez un peu.
J'en parle effectivement. C'est sûr que les différentes restructurations qui peuvent exister dans les services où c'est pas évident en fait finalement de faire des plannings et on l'entend bien mais on demande de plus en plus aux soignants d'être polyvalents et ça j'ai pu le vivre en fait finalement dans mon service où j'avais l'impression qu'on perdait un peu ce lien à la fois nous entre soignants parce que quand les infirmières tournaient bien trop vite et que quand elles sont en 12 heures de nuit ou de jour sur deux services, ça nous arrivait parfois de pas nous voir pendant plusieurs semaines. Et finalement, c'était les médecins, les internes, les externes qui devenaient les référents des enfants parce qu'eux, ils nous voyaient tous les jours. Mmh. Donc ça avait tendance à alourdir notre charge de travail et à faire perdre un lien très précieux que les familles et les enfants avaient avec le personnel paramédical. Et puis, il y avait des choses qui s'échangeaient aussi au lit des patients avec les collègues paramédicaux qui disparaissaient finalement parce que comme les enfants et les familles ne connaissaient un peu moins les infirmières, il y avait quelque chose d'intangible, je trouvais, qui se perdait.
Mmh.
Donc ça, voilà, c'est mon expérience d'il y a quelques années, parce que j'ai quitté l'hôpital il y a plusieurs années. J'ose espérer que la cohésion s'est recréée d'une autre manière. Mmh. Mais je sais que ça a été une source de souffrance assez importante au moment de la restructuration dans mon ancien service.
Mmh. Alors, d'autres personnages jalonnent votre roman. Gabriel, donc la co-interne avec Étienne. Alexandre Morillon aussi, qui était un homme formidable.
Oui, tout à fait. Oui. jeune chef de clinique. Donc,
oui, un jeune chef de clinique.
Ouais,
oui.
C'est l'étape juste après l'internat. On a passé notre thèse, on devient senior, donc on a pleine responsabilité, mais on est encore bébé médecin en fait finalement, mais senior avec une charge en charge les internes, les étudiants et puis avec des patients dont on est médecin référent.
Oui. Mais il est jeune et pourtant il a beaucoup d'humanité aussi lui. Il est un peu protecteur avec ses internes.
Oui, je pense que c'est un personnage qui est inspiré de mes propres chefs de clinique, de mes propres seniors, parce que j'ai eu énormément de chance, en tout cas, quand j'étais interne,
oui,
de passer dans des services de pédiatrie. Donc moi, j'ai fait mon internat à Rouen.
Mmh.
Et voilà, mes chefs de clinique étaient hyper sympas, hyper disponibles. Et je pense que ça a forcément infusé dans mon écriture.
Mmh. Mmh. Alors, dans votre récit, on va voir l'évolution d'Étienne. De rigide et mal luné quand même, il était mal dans sa peau également. Il va devenir beaucoup plus ouvert et empathique parce qu'il a accepté ses failles et qu'il se les est pardonné, c'est ça?
Oui, à terme, c'est ça, mais ça se fait pas sans souffrance.
Oui, c'est ça.
Ouais. Il a du mal en fait à il bataille finalement avec un deuil qu'il n'a pas pris le temps de digérer, le deuil de son papa,
oui,
qui est décédé d'un cancer. Donc du coup, quand il se retrouve confronté à un stage de 6 mois dans un service où il n'avait pas du tout envie de mettre les pieds à la base, en fait, il se braque, il va pas du tout être ouvert et bienveillant.
Mmh.
Et puis en plus, voilà, il s'est passé un chantage avec son co-interne,
oui,
qui met aussi en péril toute sa carrière.
Mmh.
Et du coup, le fait qu'il ait du mal à le digérer fait qu'il arrive dans le service avec une mauvaise posture, quoi.
Oui. Alors, il y a aussi sa compagne, Chloé.
Mmh.
Oui. Elle est un petit peu en filigrane, mais en même temps, on sent qu'elle souffre aussi du caractère d'Étienne. Mais on sent aussi beaucoup d'amour, hein, c'est ça ?
Oui, bah, j'ai des lecteurs qui me disaient, qui pensaient que, je vais spoiler sinon, mais qu'une autre histoire d'amour allait se créer entre Étienne et une autre personnage. Et en fait, non, c'était pas effectivement le sujet du livre. Moi, j'avais à cœur de montrer justement, comme je disais, ces vases communicants entre les problèmes professionnels et les problèmes personnels. Et bah, le fait que parfois nos proches, à nous en tant que soignants, peuvent aussi souffrir de nos attitudes, de ce qu'on peut ramener de l'hôpital. Et je voulais montrer aussi l'importance du soutien des proches, que ce soit pour les soignants qui travaillent dans ces services et le soutien des proches pour les familles qui traversent une difficulté comme le traitement d'un cancer pour un enfant.
Mais en même temps, ça ne doit pas être facile d'enlever sa blouse et puis d'effacer un peu tout.
Bah, je crois qu'on n'efface jamais vraiment, en fait. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, je n'arrivais pas à laisser mes chaussures sur le paillasson en me disant « Ok, tous les problèmes restent dans les chaussures et là, j'enfile mes chaussons et je suis quelqu'un de différent. » Non, je pense qu'il y a vraiment une communication entre les deux. Après, le tout, c'est de réussir à prendre un peu de recul, mais sans perdre son humanité. Et ça, je l'ai appris au contact de mes collègues pour qui ça faisait des années qu'ils travaillaient dans ce service. Avec ces moments de débriefing et de respiration où je pouvais discuter de mes doutes, de mes propres failles en tant que soignante, où je me remettais en question sur des erreurs que j'ai pu faire aussi. Alors, pas aussi dramatiques que celles d'Étienne, mais où forcément, la médecine n'est pas une science exacte, malheureusement. Et je voulais montrer aussi ce côté-là d'humanité, où on peut être bienveillant et finalement aussi faire des erreurs. Donc, en tout cas, moi, quand j'étais dans le service, j'avais cette blouse qui me protégeait aussi, mais j'essayais de faire en sorte que mon empathie n'en pâtisse pas. Voilà.
D'accord. Alors, vous écrivez également que l'amour, c'est refuser de blesser ce qu'on aime alors qu'on en a le pouvoir. C'est si simple que ça, l'amour ?
Ah, c'est une bonne question. Non, je pense que l'amour, c'est quelque chose de complexe. Et puis, il y a différents types d'amour.
Bien sûr.
Moi, je portais un amour immense à mes patients, qui est un amour complètement différent que celui que je porte à mes enfants, que celui que je porte à mon mari, à ma famille, que celui que je portais à mes collègues. Je pense que c'est plus une question d'équilibre, finalement, et essayer de ne pas blesser l'autre. C'est, je pense, la base de l'amour, ne pas blesser l'autre.
Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi beaucoup de parents qui, quand leur enfant est atteint d'un cancer, qui voient un petit peu leur entourage fuir un peu parce qu'ils ne savent pas quoi dire souvent. C'est ça, hein ?
Ouais.
Et ça doit être encore beaucoup plus compliqué à vivre, ce genre de choses.
Ouais, je pense qu'il y a deux attitudes, en fait, finalement. Soit des gens qui veulent dire quelque chose pour soutenir, mais qui ne savent pas comment. Donc, ils sont là au tout début. Et puis, voilà, au fur et à mesure, quand il y a des complications qui arrivent, que ça devient plus difficile que prévu, finalement, les liens se délitent un petit peu. Et puis, parfois, on est surpris de certaines personnes qui n'étaient pas si proches que ça avant et qui se rapprochent énormément et qui sont d'un soutien incroyable. Donc, ça, j'avais envie de montrer ça parce que le but de ce roman-là aussi, c'était d'ouvrir une fenêtre sur ces services pour que des parents qui éventuellement auraient à traverser cette épreuve puissent le faire lire à leurs proches pour leur montrer que, je traverse ça, mais...
Ça ne me définit pas seulement.
Ça ne me définit pas seulement. Et voilà comment tu peux m'aider. Ça, j'avais envie de désacraliser un peu cette peur et cette méconnaissance en offrant à travers la sécurité d'une fiction, parce que c'est tout ça la magie de la littérature, c'est de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour apprendre à appréhender sa souffrance, le toucher du doigt et après peut-être mieux l'aider et le soutenir le cas échéant.
Alors nous allons rester dans l'amour et nous allons écouter Nat King Cole.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give
to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two and love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Marie Vilquier, venue nous présenter son roman « Et nos routes toujours se croisent » publié aux éditions Rémanence, avec Raymond Hiss, trésorier de la DIL. Mais avant de revenir au roman de Marie Vilquier, John Bullitt va nous faire la lecture de sa nouvelle « Au pays des Schtroumpfs ».
Ah, Totor n'emmène pas large en traversant la cour de l'école du Charmois à Paris, dans le 15e. Oui, il se rend tête basse au bureau de M. Bernard, le directeur redouté par tous les élèves. Ses vices, châtiments corporels sont de mise à l'époque. Et le chanteur Bob Dylan a beau s'époumoner outre-Atlantique que « the time are changing », Rien ne change dans cette école de quartier. Son grand frère, quelques 10 ans auparavant, y a déjà goûté à cette éducation à l'ancienne, à la dure, et n'en a pas vraiment gardé de très bons souvenirs, excepté quelques vilaines cicatrices corporelles. Et c'est le châtiment ou la récompense, et pas d'autre alternative ou nuance dans le système éducatif des années 50 à 60. Totor ne sait d'ailleurs pas pourquoi tout le monde l'appelle Totor, alors que son vrai prénom, c'est Victor Robert. Un double prénom ridicule donné par sa grand-mère à sa naissance, mais pour l'heure, il n'est pas rassuré. Il se raconte que M. Bernard aurait soulevé par les oreilles, à hauteur de son bureau, le dernier élève puni de la classe de CM2. Et Totor, on a froid dans le dos rien qu'à cette évocation. Ah, il faut dire que Totor a fait une grosse bêtise. Ce matin, en voulant recharger l'encre de sa plume, il a plongé celle-ci dans l'encrier d'un geste un peu trop brusque et s'est coincé le doigt dans l'encrier. Voulant ressortir ce dernier, il a emmené l'ensemble, encrier et plume, et... doigt en l'air, a renversé la totalité de l'encre bleu-violette sur la table et sur son voisin, arrosant au passage son cahier du jour, ses deux mains et sa blouse d'écolier. Il ressemble un peu à présent à l'un de ces schtroumpfs qu'il adore. Mais, Totor sait très bien que M. Bernard n'aime pas beaucoup les schtroumpfs, y compris ceux d'1m30. Il tente bien une vague explication de sa maladresse en balbutiant « J'y ai pas fait exprès », peu convaincant, mais Totor lit bien dans les petits yeux de myope du directeur qu'il va en prendre pour son grade. Exprès ou pas, ce sera pareil. Oh, les rares cheveux de M. Bernard sont dressés comme autant d'ultimatums avant son déchaînement de violence. Et Totor tremble de tout son être quand il lui désigne le coin près de son bureau. La voix gutturale de M. Bernard s'élève et lui promet une punition exemplaire, tellement exemplaire que sa voix en tremble, elle aussi, et finit en trémolo. Assise à genoux sur deux règles de bois inconfortables, retournée face au mur, Toto courbe le dos et s'attend à une volée de coups de la joyeuse. Cette baguette en bambou du directeur sadique que craignent tant les mauvais élèves de l'école. Mais seul un bruit sourd et mat, suivi d'un minuscule cri, retentit derrière lui. N'osant pas se retourner, Totor reste quelques instants silencieux et tendu, s'attendant à chaque instant une volée de coups sur son dos, mais rien. Risquant un coup d'œil furtif derrière lui, le gamin découvre alors le directeur allongé au sol, crispé dans un rictus de souffrance, la bouche entrouverte, sans qu'aucun son ne sorte de celle-ci. Interloqué, Totor, du haut de ses 10 ans, ne sait que faire. Mais qu'aurait fait le grand Schtroumpf dans un cas pareil, se dit-il. Après tout, peut-être ne rien faire, justement, et le laisser là, ce tortionnaire, il l'aurait bien cherché. Fini les coups de baguette de la joyeuse, les cheveux tirés, les règles sous les genoux et les gommes lancées à la figure des élèves distraits. Ce serait facile pour lui. Il suffirait de rentrer tranquillement à l'autre bout de l'école, dans sa propre classe, prendre l'air un peu penaud, la tête basse et ne rien dire. Totor regarde les yeux révulsés du directeur, son visage rouge, puis ses mains tordues par la souffrance qui deviennent exsangues et bleues à présent. Bleues, tout comme celles des Schtroumpfs. Totor réalise soudainement que M. Bernard fait partie lui aussi de la grande famille des Schtroumpfs. Mais même si c'est le Schtroumpf méchant, et qu'il doit donc être sauvé. Cela lui apparaît comme une évidence. Sa perlipopette. Vite, courir à toutes jambes au bureau de l'infirmière, Madame Miclot, qui prend les choses en main aussitôt et appelle les pompiers. Ceux-ci lui portent secours rapidement et c'est l'effervescence dans l'école. Le bureau du directeur se remplit en quelques minutes de sauveteurs, d'autres instituteurs attentionnés et de quelques élèves curieux. Ah, il va être sauvé. Totor, le Schtroumpf gentil, comprend qu'à présent, il a des pouvoirs magiques et qu'il peut sauver des gens. Des gens, même méchants comme le directeur, et que c'est son devoir de les sauver. Il est une sorte de Schtroumpf gentil, mélangé à Gargamel le sorcier. Dorénavant, il n'aura plus peur de rien. Ni du maître, ni de M. Bernard, et encore moins des autres élèves de sa classe qui parfois l'embêtaient. Oui, the time are changing pour lui. Est-ce donc pour cela qu'aujourd'hui encore, en cette année 1981, dans son imposant bureau du ministère de la Justice, place Vendôme à Paris, trône un exemplaire d'un album des Schtroumpfs? Ah, peut-être bien. Peut-être qu'effectivement, Victor Robert Badinter, alias Totor, y a toujours pensé, toute sa vie durant, pour mener son combat pour l'abolition de la peine de mort. Totor, il faut sauver même les méchants.
Merci, John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors Marie, comment s'est déroulé le processus d'écriture de ce roman? Il y a eu des moments de doute, des passages particulièrement difficiles à rédiger, ou ça s'est passé tout simplement?
Je l'ai fait environ sur une année. Voilà, à l'occasion d'un temps mort au cours de ma carrière, je savais pas trop dans quel sens prendre l'écriture d'un roman. Voilà, ça faisait des années que j'avais mis ma plume de côté et j'écoutais à l'époque des podcasts d'écriture avec des conseils. Mmh. Et je me suis dit, bon, je pense que j'ai besoin d'un peu plus d'accompagnement. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire à une formation en ligne d'écriture créative. Et donc, en fait, l'idée est venue progressivement. J'étais partie sur une histoire de Seconde Guerre mondiale, un roman historique. Donc, pas du tout à 10 000 lieues de ce roman-là. Et finalement, c'est cette histoire-là qui a toqué à la porte. Donc, j'ai mis de côté les premières notes que j'avais prises de ce roman historique et je suis allée ouvrir les fameux carnets dont je vous parlais tout à l'heure. Mm-hmm. Et j'ai commencé à construire des personnages. J'ai suivi les cours en parallèle sur la gestion du suspense, la construction des chapitres. Ça s'est fait progressivement comme ça, un premier jet sur environ 6 mois. Je l'ai mis de côté pendant 1 ou 2 mois, histoire de l'oublier. Et je l'ai relu avec un œil un peu plus neuf à l'issue de cette pause. J'ai effectué un retravail donc de correction avant de l'envoyer en bêta lecture pour avoir des premiers avis de lecteurs bienveillants, qui étaient ma maman et mon mari. Qui n'étaient pas forcément très objectifs, mais voilà, qui m'ont donné confiance en moi. Donc j'ai retravaillé avec leurs avis. Ma petite belle-sœur aussi l'a lu. Du coup, j'ai eu le courage après de tenter l'envoi aux maisons d'édition une fois ce travail complété.
D'accord. Alors, comme je vous le disais précédemment, le roman de Marie Vilquier et Nos routes toujours se croisent est un premier roman. Alors, Marie, ça a changé quelque chose dans votre vie, la parution de ce roman ?
Bah oui. Je dis toujours que j'ai trois boulots. Bah, je suis toujours médecin, je suis devenue maman et je suis devenue autrice. Donc j'ai 3 journées en une en fait finalement. Je consulte la journée, je m'occupe de mes enfants le soir et une fois qu'ils sont couchés, j'écris. Donc oui, ça a changé ma vie. Après voilà, j'ai quitté l'hôpital il y a quelques années, donc j'ai aussi récupéré un rythme différent de celui que je pouvais avoir quand j'étais médecin hospitalier. Sur le plan des rencontres, ce roman me fait vivre une aventure incroyable.
Ouais. Ouais. Alors, s'il y avait un message, une émotion, une réflexion que vous aimeriez que les lecteurs retiennent après avoir refermé votre livre, ce serait quoi ?
Alors, ça ne vient pas de moi, ça vient d'une lectrice qui m'a dit, en refermant ce livre, c'est le mot « lumière » qui me reste en tête. Et j'ai trouvé ça... vraiment juste en fait. Je voudrais que quand les lecteurs et les lectrices referment ce livre, ils en repartent avec un peu plus de confiance et d'espoir pour leur propre voyage. Parce que je pense que la vie est faite, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est fait de montagnes russes et de tempêtes à traverser. Mes personnages en bavent quand même pas mal, mais in fine, ils en ressortent avec probablement... des armes pour affronter les tempêtes suivantes qui ne manqueront pas d'arriver.
Je confirme. Alors, vous rencontrez désormais vos lecteurs lors des salons du livre. D'ailleurs, vous venez d'obtenir un prix lors d'un salon. Vous voulez nous en parler ?
Oui, bah, je suis ravie et honorée. Après avoir été finaliste du prix Victor Hugo, j'ai reçu le prix du premier roman de la ville de Mency, donc au salon du livre et de la BD d'Île-de-France. Donc, c'était samedi matin. Sous un beau soleil, avec plein de rencontres incroyables. Oui, ça, c'est vraiment un aboutissement pour moi. Je suis vraiment ravie.
Oui, d'être reconnue, effectivement, par... Oui. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte de rencontrer vos lecteurs ? Vous aimez bien
C'était très intimidant au tout début. Mais voilà, j'ai eu la chance de débuter en étant pas connu du tout en fait finalement, donc pas de pression, donc j'ai appris à pitcher mon roman, à le présenter. Je vois bien que parfois ça fait peur aux gens, le thème, à juste titre, hein. Comme je disais, c'est entouré de peur et de méconnaissance, donc les gens m'écoutent avec beaucoup de bienveillance la plupart du temps. Parfois certains le reposent en se disant qu'ils sont pas prêts à lire ça, et je comprends, hein. Je pense que la lecture c'est aussi... à but d'évasion, et que quand on traverse des difficultés au tenté, on n'a pas forcément envie de se plonger dans un roman difficile.
Oui, c'est ça, oui.
Mais ils sont toujours sympas, ils me prennent une carte, un marque-page pour avoir la référence. Voilà. Et puis il y a d'autres lecteurs qui se laissent complètement tenter, à la fois après un échange, une discussion, ou qui timidement viennent me voir en me disant qu'ils ont vu les commentaires sur Babelio ou sur Amazon. J'ai la chance d'avoir des lecteurs qui m'ont fait des super chroniques et des super retours. cours. Donc ça aide en fait finalement ceux qui hésitent encore en salon, qui regardent, qui jettent un œil sur Internet pour voir les critiques et qui finissent par se lancer. Donc ça c'est vraiment incroyable.
Et alors comment donc il va falloir dire à nos auditeurs où on peut trouver votre livre. Vous avez un site ?
Oui, j'ai un site internet, mais mon roman n'est pas vendu sur mon site. Mmh. Il est vendu sur le site des éditions de La Rémanence. D'accord. Il est disponible sur les plateformes en ligne, mais il est surtout disponible en librairie. Donc, il n'est pas diffusé, mais en tout cas, on peut le commander. Et il est disponible assez rapidement. Donc, moi, j'encourage plutôt les gens à aller défendre nos librairies indépendantes. On en a terriblement besoin. Bien donc, sûr. Si vous voulez vous procurer mon livre, plutôt en librairie.
En librairie, bon. Et alors, vous êtes écrivaine ? Vous êtes aussi lectrice ?
Oui, oh là là, oui.
Oui, vous avez le temps encore ?
Alors, je prends toujours le temps, quelques pages avant d'aller au dodo, pour m'endormir. Mais c'est sûr que je lis beaucoup moins que quand j'étais en congé maternité ou sur certaines phases où j'écris pas. Mais je lis toujours systématiquement quelques lignes avant de m'endormir.
Mmh. Ouais. Et quel genre de livre, tout ?
Et ben là, je suis en train de lire Sarva Amorosa, justement, de Mireille Poulain, oui. Que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 15 jours à l'occasion du salon.
Oui.
Alors sinon, j'aime beaucoup la littérature blanche, littérature générale, contemporaine. Quand on me conseille un bon thriller, un bon polar, j'y plonge avec joie. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien la fantasy. J'avoue que c'est un genre que j'ai un peu mis de côté. Mais pareil, si j'ai une recommandation de quelqu'un en qui j'ai confiance et qui a les mêmes goûts, voilà, j'hésite pas, je découvre aussi avec plaisir. Mmh. Et puis depuis que je suis sur les réseaux sociaux, ma pile à lire a flambé parce que voilà, je regarde les chroniques des différents lecteurs, lectrices qui partagent leur lecture et c'est vrai que j'ai fait des belles découvertes vers des livres vers lesquels je serais pas forcément allée et qui ont été des belles surprises. Donc je lis assez facilement de tout, je suis très curieuse sur le plan de la lecture.
Mmh. Et comment dire vous allez écrire à nouveau ? Vous avez déjà quelque chose en route ?
Oui, j'ai déjà mon deuxième roman qui est terminé.
Le roman historique que vous avez commencé ?
Non, je l'ai laissé dans les tiroirs. Je pense que c'était vraiment pas le moment. Ouais, j'ai mes notes encore, mais non. Non, c'est un roman avec deux temporalités. Donc il y a un petit peu d'historique et un petit peu de contemporain. Et je l'ai soumis à un concours d'écriture l'année dernière. Et je suis arrivée vice-lauréate du concours. C'était le concours des éditions Charleston, mmh. Le Grand Prix du Romanesque. Il publiait la lauréate, que je conseille, son roman extraordinaire. Mais du coup, comme il ne publiait que la lauréate, oui. Je suis en recherche d'une maison d'édition. Mmh. Parce que ma maison d'édition actuelle, c'est... Je pense pas forcément sa ligne éditoriale.
D'accord.
Donc voilà, je
Donc
je
vous
suis
l'avez
en
terminé.
Recherche. J'ai terminé, oui.
Et alors du coup, vous attendez un peu pour vous ressourcer avant de commencer quelque chose d'autre.
Oh bah en fait, ça fait plusieurs mois que je l'ai terminé. Je l'ai terminé fin 2023 pour le concours l'année dernière, en fait.
D'accord.
Et là, du coup, comme je n'ai pas été lauréate, je l'ai renvoyé en comité éditoriaux et ça prend des mois. Mm-hmm. Donc là, non, je suis en train de brainstormer sur un troisième livre. Mais voilà, comme je vous disais, c'est plus difficile depuis que j'ai repris le travail après mes congés maternité. Donc c'est sur ma troisième journée de travail avec la fatigue actuelle, j'avance beaucoup moins vite, mais j'avance.
Alors si vous aviez un conseil à donner à ceux qui ont envie d'écrire un roman ?
D'écrire, clairement, de pas douter. Je pense que quand on est écrivain, on est très mauvais juge de ses propres écrits. Et puis on peut parfois être intimidé par des gens qui pensent que la littérature est réservée à une élite. Et je suis totalement contre cette idée. Je pense que chacun a quelque chose à dire. Et que si on a envie de le dire, il faut se lancer. Et on a tous un talent au fond de nous. Et que tant qu'on n'a pas écrit, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas écrire.
D'accord. C'est positif. C'est positif.
Très positif.
Alors, je dois dire que j'ai énormément aimé votre roman. Un récit difficile, mais sans pathos, avec un style précis et incisif qui laisse voir une empathie certaine pour la misère humaine. C'est aussi une ode à la vie qui nous pousse à apprécier le fait d'être en vie, tout simplement. C'est ça qui pourrait rester.
Oui, tout à fait. Je l'ai écrit à un moment difficile dans ma vie. Je pense que cette période-là a infusé en termes de sentiments, d'émotions. Donc, je me suis basée sur des faits réels, finalement, ce que j'avais pu vivre moi en tant que médecin. Le chamboulement de la maternité également, avec tout l'amour qu'on peut porter à ses enfants, la peur aussi qu'ils ne nous quittent pas. Et puis voilà, moi, au moment d'écrire ce roman-là, je traversais un deuil très difficile. Donc forcément que ça a infusé et je me suis raccrochée à ce projet d'écriture pour remettre un pied dans la vie. Et donc oui, c'est tout à fait ça. Ce que vous avez dit, c'est tout à fait juste.
Alors, merci à Marie Vilquier d'être venue nous présenter son roman « Et nos routes toujours se croisent » publié aux éditions Rémanence. Merci à Raymond Hiss, trésorier de l'ADIL, l'Association de défense et d'illustration de la littérature en Lorraine, d'être venu nous parler du prix Victor Hugo, qui est décerné tous les ans depuis quelques années. Merci à John Bullitt qui nous a fait la lecture de sa nouvelle « Au pays des Schtroumpfs ». Merci à Laura qui était à la technique aujourd'hui. Au revoir à tous et à bientôt sur RCN pour une nouvelle émission des Plumes. Et nous terminons avec l'espérance folle.
C'est l'espérance folle qui nous console de tomber du nid et qui demain prépare pour nos guitares d'autres harmonies. S'élève l'espérance dans le silence soudain de la nuit et les matins qui chante déjà, enchante nos soirs d'aujourd'hui. Viens, c'est la fête en semaine, viens. Je t'attends, tu le sais, plus rien ne nous sépare. Viens, viens, si les larmes t'ont fait du bien. Ce sourire est déjà le lien avec les beaux jours qui viennent, reviennent. C'est l'espérance folle qui carambole les tombes du temps. Je vois dans chaque pierre cette lumière de nos cœurs battants. La mort c'est une blague, la même vague nous baigne toujours. Et cet oiseau qui passe porte la trace d'étranges amours. Viens, c'est la fête en semaine, viens. Je t'attends, tu le sais, plus rien ne nous sépare. Viens, viens, si les larmes t'ont fait du bien. Ce sourire est déjà le lien avec les beaux jours qui viennent, reviennent. C'est l'espérance folle qui danse et folle au-dessus des toits. Des maisons et des places, la terre est basse, je vole avec toi. Tout est gagné d'avance, je recommence, je grimpe pieds nus au sommet des montagnes, ma de cocagne des cieux inconnus.